Merci Seigneur pour l'Esprit Saint que tu nous donnes, cet Esprit qui est la troisième personne de la Trinité, qui est un souffle mystérieux, puissance infinie de ta grâce et de ton amour, puissance du Père éternel. Merci Seigneur pour l'Esprit Saint qui vient maintenant souffler dans nos cœurs et qui vient entrer en nous pour chasser tout esprit du mal, tout ce qui nous enferme et nous empêche de nous ouvrir à l'amour éternel du Père. Voilà, nous avons aussi chanté en langue, ce chant en langue que vous avez entendu. Donc ces notes modulées de manière spontanée, ce n'est pas juste de l'improvisation. Ça s'appelle le chant en langue, le parler en langue. C'est Saint Paul en parle lui-même dans l'Épître aux Corinthiens. Et moi, ce parler en langue, il m'a été donné de manière forcée par le Seigneur, puisque quand j'ai vu le ciel s'ouvrir au-dessus de moi à 25 ans, quand on a prié pour moi, au cours de cette expérience spirituelle que je ne vous raconte pas, mais juste un petit point, ce chant en langue m'a été donné, ma langue s'est mise à bouger toute seule. Et moi, je n'y croyais pas à se parler en langue. Alors, j'ai fermé ma bouche, puis il y a quand même un son qui est sorti, parce que le Seigneur est bon. Voilà, un peu, quand le Seigneur fait quelque chose, on est toujours un petit peu décalé. Dans les évangiles, c'est pareil. Quand le Seigneur fait des miracles, des transfigurations, les apôtres sont un peu paumés. Quand il y a une expérience spirituelle, on est toujours un peu à côté de la plaque, c'est normal. Mais dans le temps, on comprend ensuite ce que le Seigneur a voulu faire. Son moment, on ne comprend pas. Donc ce parler en langue, ce chant en langue, vous pouvez demander la grâce au Seigneur pour pouvoir chanter en langue avec nous ce soir, enfin la prochaine fois. Sachant que je raconte souvent que l'exorciste de Rome, l'ancienne exorciste de Rome, dont la morte, qui était connue pour être un excellent exorciste, raconte qu'une fois, il exorcisait une personne et il n'y arrivait pas. Donc il a amené cette personne à un groupe de prière, à chanter, bon, tout ça. Ça ne faisait rien. À un moment donné, ils ont chanté l'Esprit Saint, toujours rien. Puis à un moment donné, ils ont chanté en langue. Alors là, le démon dans la personne, il était furax. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça me fouette ce truc. Qu'est-ce que c'est? Et il est parti de la personne. Voilà, donc le chant en langue, c'est aussi un chant puissant pour nous libérer. C'est l'Esprit Saint qui vient chanter en nous. Les démons ne supportent pas. Alors, nous allons maintenant continuer cette méditation de la parole de Dieu. Au chapitre 9, à partir du verset 27. Comme Jésus s'en allait de là, deux aveugles le suivirent, qui criaient et qui disaient « Aie pitié de nous, fils de Dieu !» Étant arrivés à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puis faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui disent-ils. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous advienne selon votre foi !» Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus alors les rudoya, « Prenez garde, dit-il, que personne ne le sache. » Mais eux, étant sortis, répandirent sa renommée dans toute cette contrée. Voilà, donc Jésus est souvent, si vous regardez les évangiles, Jésus est souvent en train de marcher. Il va de village en village, il pérégrine, dans la Galilée en particulier. C'est beau de considérer que Jésus, qui est le Fils de Dieu, ben Dieu va de village en village, comme il n'y a pas de moto, puis qu'il n'a pas de cheval, il y va à pied. Donc il prend le temps d'aller d'un village à un autre pour évangéliser lui-même. Dieu vient lui-même chercher ses brebis en Jésus-Christ de village en village. Et dans les villages, il évangélise et il guérit les personnes. Et puis là, il se trouve que sur le chemin, il y a deux aveugles qui ont entendu parler de lui et qui essaient de le suivre. Donc on peut imaginer que Jésus marche sur le chemin, il y a ses disciples, hommes, disciples, femmes, ses apôtres. Il y a des gens qui le suivent aussi depuis un certain temps. Et puis, il y a ces deux aveugles qui le suivent et qui crient « Aie pitié de nous, fils de David !»« Aie pitié de nous, fils de David !» Puis ils continuent de crier. Et ce qui est impressionnant, c'est que Jésus fait comme s'il ne les entendait pas. Et s'il fait comme s'il ne les entendait pas, c'est qu'il y a un sens. C'est pas juste pour les embêter. C'est pas juste parce qu'il est sourd d'oreille ou parce qu'il en a marre de guérir les personnes. S'il fait comme s'il ne les entendait pas, c'est que ça a un sens. Donc ça veut dire qu'il leur demande de persévérer dans leur prière, de continuer à le suivre, alors même qu'ils ont l'impression que Dieu ne les écoute pas. Dans nos prières, c'est la même chose. Parfois on prie, puis clac, le Seigneur nous écoute. Immédiatement, enfin on le voit qu'il nous écoute, et on reçoit la grâce qu'on a demandée, ou il y a quelque chose, il y a un signe de Dieu qui nous a donné. Parfois, on prie longtemps, comme ces aveugles, on a l'impression que Dieu n'entend pas. Jésus continue son chemin, il les entend, certes, mais il ne se retourne pas. Et eux continuent de crier, « Aie pitié, fils de David !» Remarquez que ils n'ont pas des prières très perfectionnées, si j'ose dire. C'est une prière très simple. Aie pitié, fils de David, c'est quand même pas compliqué à dire. Donc même si vous n'avez pas de livre de prières, qui sont d'ailleurs très bien, avec des prières plus stylées, si j'ose dire, plus travaillées, vous pouvez toujours dire « Aie pitié de nous, fils de David ». Ça me rappelle quelqu'un qui me racontait qu'elle a un ami, et cet ami qui ne va pas beaucoup à l'église, elle lui a demandé s'il connaissait des prières. Il lui a répondu « Moi, je connais une seule prière, aie pitié de moi, Seigneur ben, ». C'est déjà pas mal. S'il connaît cette unique prière, « Aie pitié de moi, Seigneur », peut déjà aller assez loin avec ça. Maintenant, il faut qu'il prie vraiment cette prière, puis ensuite Jésus va l'emmener plus loin. « Aie pitié de nous », ils disent quand même « Fils de David ».« Fils de David », ça veut dire « Toi qui es le Messie ». Le Fils de David, pour les Juifs, c'est le Messie, c'est-à-dire celui qui vient sauver Israël. Donc ça veut dire qu'ils le reconnaissent comme le Messie. Peut-être qu'ils ont entendu parler de lui, ils n'ont pas vu ses miracles, ils sont aveugles, mais ils ont entendu parler de lui, et donc ils ont reconnu en Jésus le Messie. Il y a déjà un acte de foi dans la suite de Jésus, ils sont capables de lui donner comme titre « Fils de David ». Ils ne sont pas capables de dire « Fils de Dieu », ils sont capables déjà de dire « Fils de David ». Quand on chemine dans la foi, eh bien, progressivement, on avance, on peut avancer, et on peut reconnaître en Jésus un prophète, le Fils de David, un homme qui fait des guérisons, quelqu'un qu'on ne connaît pas mais qui est divin, puis à un moment donné, on arrive à découvrir qui il est réellement aussi le Fils de Dieu. Mais Jésus nous laisse cheminer nous aussi dans notre foi. Même si on a découvert qu'il est Fils de Dieu, on n'est pas encore au bout du chemin. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur Jésus, tellement c'est une personne qui a une profondeur infinie, ne serait-ce que son amour et sa miséricorde qu'on n'a jamais totalement découvert, qui est infinie. Aie pitié de nous, Fils de David. On ne sait pas combien de temps ça a duré. Voilà, ça fait 5 minutes que je vous discute sur ce petit verset, mais on ne sait pas combien de temps ils ont marché derrière Jésus avec « Aie pitié de nous, fils de David ». Probablement que la foule en avait un peu marre, les apôtres et les disciples, ils en avaient marre, ils étaient tentés soit de dire à Jésus « Mais viens leur parler », soit de dire à l'aveugle « Mais taisez-vous, on en a marre ». Mais n'empêche que Jésus laisse faire. Et ils arrivent à la maison. La maison, dans les évangiles, ça symbolise l'église. La maison, c'est l'église, c'est la maison de Pierre, c'est l'église. On voit que ce sont finalement des aveugles, c'est des gens qui n'étaient pas dans l'église, qui ont commencé à entendre parler de Jésus et qui arrivent dans l'église, dans la maison. Jésus les a entraînés jusque dans l'église, dans la maison, en ne répondant pas tout de suite à leur attente. Alors à ce moment-là, quand ils sont dans la maison, ils peuvent s'approcher de Jésus. Donc symboliquement, ça veut dire qu'ils sont entrés dans l'église, ils ont peut-être fait le pas du baptême, et ça y est, ils peuvent s'approcher de Jésus. Ils peuvent commencer à demander à Jésus quelque chose. Et Jésus leur dit, une formule même pas de demande d'ailleurs, « Croyez-vous que je puis faire cela ?» Il ne suffit pas d'être dans l'église pour avoir la foi, je peux être dans l'église et ne pas avoir la foi. Donc Jésus leur demande encore un pas supplémentaire dans la foi. Dans notre vie, on doit sans cesse poser des pas supplémentaires dans la foi. « Croyez-vous que je puis faire cela ?» Ce n'est pas simplement « Croyez-vous en moi en général », mais « Croyez-vous que là, ce que vous me demandez, je peux le faire ?» C'est vraiment un acte de foi très concret. Parce qu'il ne suffit pas de dire « Jésus, je crois en toi ». Mais dans nos vies, il faut pouvoir dire à Jésus « Seigneur, sur cet élément de ma vie, je crois que tu peux m'aider. Je crois que tu peux faire cela. » Il y a beaucoup de chrétiens qui croient en Dieu, je dirais, en général. Pour poser un acte de foi dans une action concrète de Dieu, ça, c'est plus compliqué. Je le vois même dans ma vie. Souvent, le Seigneur me met à l'épreuve et me dit « Crois-tu que je peux faire cela ?» Et moi, je commence à paniquer. Peut-être, je ne sais pas, etc. Moi, je me rends compte que je n'ai pas toujours aussi la foi parfaite que Jésus me demande. Vous voyez ? Donc, on est sans cesse appelé à poser des actes de foi concrets. Et alors, ils lui disent « Oui, Seigneur, mais ils doutent de rien. » Eh bien, Jésus prend acte de leur réponse. Parfois, on dit « Seigneur, je crois en toi », on se demande « Est-ce que Dieu me croit quand je lui dis « Je crois en toi », est-ce qu'il me croit ?» Quand je lui dis « Je t'aime », est-ce qu'il me croit ?» Oui, il me croit. Pourtant, ils connaissent la faiblesse de ma foi, ils connaissent la faiblesse de mon amour, mais ils me croient quand même. Alors, ils disent « Oui, Seigneur ». Alors, à ce moment-là, le Seigneur touche les yeux, touche leurs yeux. Il ne dit pas simplement une parole, parfois il ne guérit que par une parole, mais là, il touche les yeux. C'est important de toucher le contact physique du corps de Jésus avec les yeux de ses aveugles. Parfois, c'est important. Pourquoi ? Parce que si Jésus s'est fait homme, si Dieu s'est fait homme, c'est pour pouvoir nous toucher, pour pouvoir nous rejoindre à travers le toucher qui est le sens le plus important de notre humanité, qui est le sens du contact, qui est le sens qui nous permet d'éprouver la présence de quelque chose ou de quelqu'un de la manière la plus forte qui soit. Il les touche. C'est pour ça que dans l'Église, vous avez des sacrements. Tout à l'heure, Thibaut a beaucoup insisté sur la présence de l'Eucharistie. Dieu ne se rend pas présent à nous de manière simplement générale. Il se rend présent à nous de manière concrète. L'Eucharistie, je peux, si je suis baptisé, si j'ai fait ma première communion, si je me confesse, je peux la manger. Je peux la manger, je peux la recevoir dans ma bouche. C'est important, ces actes, toucher, manger. Le Seigneur nous rejoint à travers des actes sensibles qui communiquent, qui ont une vertu spirituelle. Donc, ils touchent leurs yeux en disant « qu'il vous advienne selon votre foi ». Alors ça, c'est intéressant, cette phrase, parce que quand il dit « qu'il vous advienne selon votre foi », ça veut dire qu'il permet que leur foi, qui déjà leur accorde, qui leur permet d'avoir la vie éternelle. Quand j'ai la foi, je peux obtenir la vie éternelle par ma foi. C'est ce que ma foi, elle me permet d'obtenir la vie éternelle après la mort. Ça, c'est certain. Mais Jésus permet que cette foi leur donne la guérison. Alors, c'est important ce point, parce que parfois on entend dire chez nos frères évangéliques, que j'aime beaucoup par ailleurs, si tu guéris pas, c'est que tu n'as pas la foi. Ben, c'est faux. J'en sais rien. On ne peut pas dire ça. Si j'ai la foi, il faut que Jésus donne à cette foi la vertu de guérir. Il faut que lui pose un acte en disant « Ta foi, je veux qu'elle te guérisse, qu'il advienne selon votre foi. » S'il ne dit pas cette parole, j'ai la foi pour guérir, mais Dieu, mystérieusement, ne me guérit pas pour l'instant. Ce n'est pas un truc automatique. Je mets une pièce, pose un acte de foi, clac, j'ai la guérison. Vous voyez ? Donc bref, si je ne guéris pas, ce n'est pas forcément parce que je n'ai pas la foi. Ça, c'est faux. C'est faux de dire, si vous ne guérissez pas, c'est parce que vous n'avez pas la foi. On peut très bien ne pas guérir parce qu'on n'a pas la foi. Très bien, mais ce n'est pas obligatoire. On peut très bien avoir la foi et ne pas guérir. Par contre, on peut très bien ne pas avoir la foi et guérir. Parce qu'il y a des récits où Jésus ne demande pas la foi de celui qui est guéri, et il le guérit quand même. Donc c'est très mystérieux tout ça. Mais là, en tout cas, il leur demande d'avoir la foi pour les guérir. Et il donne à cette foi la capacité de les guérir. À travers cette parole, qu'il advienne selon votre foi. Si Jésus n'avait pas dit cette parole, leur foi n'aurait pas produit la guérison. Ça n'enlève rien à la qualité de leur foi, mais Jésus aurait estimé qu'il n'était pas pour l'instant bon de les guérir pour une raison que j'ignore. Et à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrirent, puisque leur foi, par la parole du Seigneur, a la capacité de les guérir, leurs yeux s'ouvrent, ils sont guéris. Alors après, Jésus les rudoie et leur dit « Prenez garde que personne ne le sache ». Ça, c'est très mystérieux. Pourquoi Jésus ne veut pas que la foule, que autour, le monde, sache que ces deux hommes sont guéris? Il y a des raisons, il y a plusieurs raisons qu'on peut évoquer. La première, elle est très concrète, c'est qu'il y a des moments, il y a trop de monde autour du Seigneur, et s'ils annoncent ces guérisons, ben le Seigneur ne peut plus rien faire, parce qu'il y a trop de monde autour de lui. Donc, parfois, le Seigneur préfère que des guérisons soient discrètes. Dans notre monde, Dieu fait aussi souvent des choses discrètement et des guérisons parfois extraordinaires. Il n'y a peut-être que 3 personnes qui les sauront, ou 4 ou 5 dans le monde. Parce que Dieu n'est pas un homme du marketing. Dieu, il cherche à nous rejoindre avec amour. Il ne fait pas du marketing. Il ne cherche pas à avoir le plus grand effet possible. Dieu cherche à rejoindre chacun avec amour. Par exemple, je peux vous donner un cas qui est extraordinaire, qui s'est passé ici à la prière des malades. Ça ne sera jamais dans les journaux. Il y a une personne africaine qui est venue ici il y a quelques années. Elle a été guérie plusieurs fois. Il y a une parole de connaissance qui a dit ensuite, il y a une personne qui veut prendre les armes, Dieu lui demande de ne pas le faire. Cette personne africaine voulait faire une révolution dans son pays. Elle est venue me voir après pour m'expliquer tout ça. J'ai vérifié sur Internet. Elle a renoncé à faire sa révolution, armée. D'accord ? Donc grâce à une petite parole, ici, il n'y a pas une révolution armée dans un pays d'Afrique dont je ne vous donnerai pas le nom. D'accord ? Ça, ça ne sera jamais dans les journaux. Dieu, parfois, se cache. Dieu ne dit pas tout ce qu'il fait à tout le monde, mais il fait des choses merveilleuses. Voilà. Amen. Merci, Seigneur, pour ton amour. Béni sois-tu parce que tu viens ce soir nous sauver, nous donner la vie. Alors, je vais vous donner quelques témoignages. Il y a 15 jours, à la dernière prière des malades, il y avait eu un témoignage en direct. Là, je me contentais de lire des mails que j'ai reçus. D'abord, un mail de Lila. Bonjour, je suis venu une première fois à la prière des malades au mois de novembre 2019. J'avais très envie de venir prier et de me sentir dans la maison du Seigneur. Pourtant, je ne suis pas baptisé, mais j'ai la foi. J'étais venu demander au Seigneur de bien vouloir libérer ma famille du mal qu'on lui avait fait, quelqu'un avait fait en sorte qu'il y ait des désaccords dans notre famille. Bon, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a fait ou c'est des problèmes familiaux. En tout cas, c'est comme ça que Lila voit les choses. C'était comme un nuage noir au-dessus de notre famille. Mais après ma prière, nous n'avons pas été libérés de ce mal, mais un miracle est tout de même intervenu sur moi. Depuis mon plus jeune âge, je me rongeais les ongles, un fléau pour moi. Du jour où j'ai participé à cette prière, je n'ai plus rongé mes ongles. Un miracle, tout simplement. Je remercie le Seigneur mille fois. Merci Seigneur de m'avoir libéré de ce mal. Cela faisait 40 ans que je me rongeais les ongles. Voilà, ben voilà, c'est pas mortel de se ronger les ongles, mais le Seigneur lui a donné cette grâce de libération. Amen. Elle était heureuse parce que ça faisait 40 ans qu'elle avait ce problème. Alors Isabelle, autre mail. J'ai découvert la prière des malades qui a lieu tous les jeudis à l'église Saint-Nicolas-des-Champs à Paris en surfant sur Internet. Bon, mais il y en a peut-être d'autres qui ont fait la même chose ici. J'ai commencé à m'y rendre en septembre 2018. Dans mon cœur, j'ai demandé au Seigneur de me guérir de mes troubles alimentaires. Il y a des gens parfois qui me demandent, ici à Saint-Nicolas, est-ce qu'il y a des guérisons simplement physiques? Est-ce qu'il n'y a jamais de guérison psychique? Ben, si, il y a aussi des guérisons psychiques. En effet, depuis l'âge de 20 ans, je suis souvent en régime et d'année en année, je suis arrivé à me faire vomir très facilement suite à des crises de boulimie. C'était presque quotidien. Mon mari s'était rendu compte des vomissements, mais pas des crises de boulimie. Je souffrais énormément, je détestais mon corps et les aliments étaient devenus tous obsessionnels. J'étais dans une prison. Cela jouait sur mon humeur, j'étais mal dans ma peau, j'avais fréquemment des moments de dépression. Lors de la prière des malades, lorsque le Saint-Sacrement est passé devant moi, il y a une parole de connaissance que je n'oublierai jamais. Donc une parole de connaissance, c'est un charisme inspiré par l'Esprit-Saint. Jésus guérit une femme de troubles alimentaires, il la réconcilie avec son corps, elle va apprendre à l'accepter. L'intérieur de ma poitrine bouillonnait, je savais que cette parole était pour moi. Je n'ai pas été guéri instantanément, mais progressivement, les crises se sont faites beaucoup plus rares. Mon obsession a diminué. Aujourd'hui, en janvier 2020, donc ça fait quasiment 2 ans par rapport à la parole, 2 ans après, je suis guéri, c'est derrière moi, je mange ce que je veux, quand je veux et de tout. Je ne fais plus de régime et j'ai accepté mon corps. Il me reste quelques complexes que je pourrais probablement faire disparaître en faisant du sport afin de me muscler, mais je ne suis pas assez motivé pour ça. Le sport n'est pas ma tasse de thé et je ne suis plus obsédé par mon corps. Merci Seigneur Jésus de m'avoir guéri et sorti de cette prison telle un enfer. Gloire à toi Seigneur, louange à toi Seigneur Jésus. Voilà, merci Seigneur pour cette guérison de boulimie. Dans les guérisons psychologiques, c'est assez particulier parce que dans les guérisons psychologiques, si la personne ne coopère pas à cette guérison, c'est-à-dire si elle se dit « je me laisse tomber », le Seigneur ne peut pas la guérir. Donc elle a coopéré à sa guérison et la grâce lui a été donnée pour guérir. Alors d'autres témoignages que j'ai reçus par ailleurs. Elena rend grâce à Dieu, elle avait la vue qui faiblissait avec les années. D'ailleurs, pendant la prière des malades, elle n'arrivait plus à lire la feuille de champ. Une parole de connaissance a annoncé la guérison de la vue d'une personne. Elena avait alors les yeux fermés. Quand elle a rouvert les yeux, elle a remarqué qu'elle pouvait lire la feuille de champ. Cette amélioration de sa vue s'est confirmée par la suite. Sa vue a retrouvé sa netteté. Elle regrette de ne pas vouloir venir plus souvent à la prière de malade car elle travaille et elle a des enfants dont elle doit s'occuper. Elle rend grâce au Seigneur. Voilà. Et puis je vais donner encore le témoignage d'Antoinette qui m'a écrit un mail. Donc je ne prends qu'une petite partie du mail. J'avais beaucoup d'arthrose aux deux genoux, confirmée par des radios, et plus de douleur au genou gauche encore pour être tombée il y a plus de 50 ans. Pour moi, monter ou descendre les escaliers, c'était infernal. Je me tenais aux rampes car mes genoux me faisaient souffrir. Je suis venu à Saint-Nicolas-des-Champs le 3 octobre 2019 avec un groupe de Mosellans en bus. Je n'ai rien ressenti de spécial pendant la prière, mais durant le trajet du retour, qui a duré 6 heures, je n'ai eu aucune douleur au genou. Depuis, je monte, je descends les escaliers sans même penser à mes genoux. Je rends grâce à Jésus miséricordieux de tout mon cœur et je vous remercie d'être son ministre et de prier pour nous. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci Antoinette pour cette bénédiction. Eh bien, nous allons maintenant accueillir Jésus lui-même dans le Saint-Sacrement, Jésus qui vient nous sauver, Jésus qui est notre sauveur.